va peut-être passer.
Après,
j'ai... En fait, je vais un peu laisser la parole à Lionel qui va. Enfin...
Qui va me.
Voilà, on va continuer, continuer un peu comme ça, mais c'est plus Lionel qui va reprendre un peu les.
Pendant que j'étais chez Soulé, donc de 39 à 45, c'est exactement la période de la guerre.
Oui.
Et ça, comment.
Eh bien, les alertes. On avait le masque à gaz tout le temps, on nous a distribué un masque à gaz et on l'avait toujours avec nous, il ne fallait pas qu'on le quitte. Voilà.
Mais c'était des endroits avec, où ça a été bombardé ou... Oui. Je sais que mamie nous racontait qu'il y avait eu des bombardements pas loin, septembre, les ballons, enfin proche.
Oui, 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 ben oui. Voilà. Ben, la Viste aussi, le château de Foresta, tout ça. C'est la Viste, ça. Oui, il y avait des bombardements, mais c'est ma foi. On continuait à travailler, on allait aux abris, on avait des abris. Mm-hmm. Quand tu avais l'alerte, tu allais à l'abri.
Et c'est là que grand-père était parti en Pologne.
Oui, grand-père, il est parti. Eh bien, écoute, on s'est marié. On s'est marié le 6 mars, et il est parti le 23 ou quelque chose comme ça.
43.
Oui, en 43. Mais lui, il travaillait.
Au ressort.
Non, pas encore. Hein.
Encore.
C'est pas encore au ressort. Il était rentré, tu sais, tu faisais ce que tu voulais. Lui, il était au lycée. Il a passé le bac. Il a passé. À l'époque, il y avait deux parties. La première, l'année d'après, tu avais la deuxième. Il a passé que la première partie, parce que, bon, la mémé, qu'est-ce que tu veux. C'était l'aîné, grand-père. Ils étaient six à l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore René. Et bon, la mémé, elle n'avait pas, tu sais, des études, le lycée. Il était rentré au lycée parce que, tout ça, ça se branche, tu vois. La mémé de la Viste,
elle
avait un frère qui était laborantin à la Capucelle dans un laboratoire. Il était vraiment laborantin, il n'était rien du tout. Hein. Mais... Il s'est marié avec la pharmacienne du laboratoire, elle qui était vraiment pharmacienne. Ce qui fait que celui-là, il a été un peu, disons, il est sorti un peu du rang, tu vois. Et c'est lui, parce que grand-père avait des facilités, il était intelligent, il faut le dire, et puis il avait des facilités. Donc celui-là qui était un peu au-dessus dans la famille, il a vu... C'est lui qui a fait que grand-père rentre au lycée.
D'accord.
Voilà. Néné, elle n'était pas d'accord, sa mère. Parce qu'elle, elle allait au lycée. Alors, pense-toi, peu cher. Il partait au lycée, donc de la Viste, au lycée Thiers à Marseille. Il partait en blouse noire. Néné, elle, sa mère, et le petit, elle à l'école, elle avait la blouse noire. Tu vois un peu comme je vais te dire. Ouais. Ben, il était le seul à arriver au lycée avec la blouse noire. Hein.
Il n'enlevait pas en route. Hein.
Il n'enlevait pas. Mais peut-être après, il a vite levé. Moi, je te le dis. Enfin, peut-être les premiers jours, il n'a pas osé.
Et toi, quand tu l'as connu, il était au lycée. Ton père.
Non, il avait fini.
Il avait fini.
C'est-à-dire, oui, on se connaissait. Parce qu'on se connaissait à la Viste. On se connaissait. Mais bon. Ça... On s'est fréquenté, comment je peux dire, sans se fréquenter, quoi. On sentait qu'il y avait l'antenne, c'était pas officiel, quoi. Voilà. Mmh. C'est devenu officiel que, d'abord, il fallait qu'il travaille, hein, parce que si j'avais dit à mon père, il est à l'école, je sais pas comment il aurait pu.
Et il travaillait où, alors?
Alors, ben, il a fait ce qu'il a pu. Il est rentré par une annonce de journal, je crois. Il est rentré, c'est pas le Prado, c'est comment ça s'appelle, je ne sais plus, un magasin de pièces détachées, et il faisait les écritures, les factures, les machines, comme ça. Mmh. Tout ça, il a été, parce que je crois qu'il avait, c'est par une annonce qu'il avait eue, enfin, je ne sais plus exactement, et le type qu'il a embauché, le patron, là, Farsi, c'était... Enfin, ils sont toujours d'ailleurs, c'est des enfants maintenant, pièces détachées, farcies. Il avait pris parce que justement il avait des enfants qui devait être au lycée, et comme lui, le père farci, devait être un peu nul comme beaucoup, il voyait que grand-père venant du lycée, puisqu'il avait dû donner son curriculum vitae, il a dit ça fera bien l'affaire. Alors il faisait les versions, les machines des petits.
D'accord.
Tu comprends? Voilà.
Il faisait à la fois un peu l'instituteur, oui, et à la fois.
Oui, tout rien, quoi. Voilà. pour pas gagner beaucoup. C'était bon ça.
Et chez Guillotte, il est rentré quand alors?
Alors ça, c'est encore autre chose.
Il y a eu d'autres trucs entre ça et Guillotte, entre Farcy et Guillotte.
Alors, c'est...
Pardon.
Moi, je travaillais donc chez Soulé. Mm-hmm. Et la personne qui était un peu mon chef chez Soulé, elle avait son mari qui travaillait chez Guillotte à l'époque, lui, qui était chez Guillotte. Et chez Guillotte, tu sais, c'était le moment de la guerre, parce que c'était une maison de lyonnaise, mmh. Guillotte. Attends, il y avait le directeur était parti, il n'y avait pas de directeur, et ce type-là, qui était lui, c'est lui le chef d'atelier, ils étaient que deux, mais bon, c'était le plus vieux, puis c'était lui qui... Et il s'était marié avec cette femme qui travaillait avec moi chez Soulé. Mmh. Alors, quand il l'a fait pour bien, certainement, mais il pensait que ça l'avantagerait, lui. Il avait connu grand-père en Allemagne. Donc, il a dit, la direction de Guillotte, il a dit, moi, ben, il y a quelqu'un, comme si, alors, comme tu sais, ils étaient loin, c'était encore la guerre et tout. Bon, il a dit, ben, ma foi. Il s'est présenté chez Guillotte, il est allé à Lyon voir les patrons, et il a été embauché. Voilà. Voilà comme il est rentré chez Guillotte.
D'accord. Et quand tu dis qu'ils sont connus en Allemagne, c'était quoi? C'était pendant le service militaire?
La déportation.
D'accord.
Parce que grand-père, il est parti en déporté.
Prisonnier, oui.
Pas prisonnier de guerre. Déporté. C'est pas pareil. Les prisonniers de guerre, c'était la guerre, ils ont été prisonniers.
Ouais.
Ils sont restés là-bas. Comme tonton Guy, par exemple, il a fait le service militaire, la guerre, et il a été prisonnier, donc il est resté 7 ou 8 ans.
D'accord.
Mais grand-père, lui, il avait pas fait le service militaire, tout ça n'existait plus. Mmh. Il y avait les chantiers de jeunesse. T'as entendu parler ça, des chantiers de jeunesse? Non? Il faut voir que tu te renseignes un peu. c'était fini. Il n'y avait plus de service militaire. Ça a été Pétain là, qui est arrivé et qui a fait les chantiers de jeunesse.
D'accord.
Alors, ils partaient, les jeunes, à 20 ans, comme au service militaire, mais ils partaient faire les coupes de bois, faire, voilà, ouais, travailler. Et grand-père, il est parti, donc, au chantier de jeunesse à Gap.
D'accord.
Mais grand-père, ma foi, là, il s'est encore débrouillé. Au lieu d'aller couper les arbres, il s'est introduit, je sais pas, parce que dans les camps comme ça, il y avait toujours un foyer où on te vendait des cigarettes, où tu pouvais acheter des cartes postales. Et bien grand-père, je sais pas comment il s'est arrangé, il s'est pris, il a été gérant du foyer. Donc il n'a pas souffert.
Ouais.
Il mangeait bien, mieux qu'à la maison, puisqu'à la maison il y avait des restrictions. Donc il était bien, voilà. Et donc, j'en reviens où, là, alors?
Ben, au fait qu'il était ensuite parti en Allemagne.
Ben oui, mais c'est, alors là, il a fait les chantiers de jeunesse. Il a travaillé, donc, chez Guillotte. Mmh. Et il a été sur la Canebière, un jour, il y a eu des rafles. Il a été raflé sur la Canebière. On les charriait, ça s'appelait... En bas de la Canebière, on appelait ça là. Oh, je ne me rappelle plus. Enfin, c'était un lieu où on charriait et tout ce, quand on faisait des rafles, on charriait là. Alors là, il est arrivé et bien entendu, il était dans la classe qu'il devait partir en Allemagne.
Mais c'était comme ça, quoi.
Non, c'était de telle classe à telle classe, il y avait les départs en Allemagne. Ils devaient partir pour le Serbie, on appelait ça, c'était pour la relève, c'était pour faire revenir les prisonniers qui étaient déjà là-bas depuis des années. Alors, on appelait ça la relève. On prenait des jeunes qu'on envoyait en Allemagne pour faire revenir les prisonniers. Mais les jeunes, ils partaient, mais les prisonniers, ils revenaient pas. Donc, voilà, ça faisait un peu...
Ça faisait la manœuvre en Allemagne, pour l'Allemagne.
Oui, c'était pas... Bon, donc, voilà. Il est parti.
Donc ça, c'était en quelle année?
En 43, je te dis. On s'est marié. On s'est marié le 6 mars. Il est parti le 23 mars en Allemagne.
D'accord.
Et je vais t'expliquer. Donc, il a été ramassé. On l'a charrié là, ce bureau. On les a menés avant de les mener à la gare à Saint-Charles. Et une fois, on a eu la chance, il y avait des policiers français, bien sûr. Et ma foi, il a raconté ça, un peu son machin aux policiers français. Et ce policier français, il est venu à la vista me dire que grand-père, il était embarqué pour la Pologne. Le soir, il y avait le départ le soir à la gare Saint-Charles. Alors, je suis partie à la gare Saint-Charles. Et j'ai dit, je le verrai, je ne le verrai pas, je ne savais rien. Je l'ai vu sortir d'un endroit, je voyais passer tout le monde, et il est rentré dans la gare, il partait, on les a marqués. Je ne pouvais pas rentrer à la gare. Je l'ai vu passer, et il m'a dit, la Pologne. Il savait qu'il partait en Pologne. Voilà.
Et là, tu t'es dit quoi, toi? Que tu le reverrais un jour, que tu ne reverrais plus?
Je ne sais pas ce que je me suis dit, mais je me suis dit en Pologne, mais... C'est pas ça, c'est qu'on est resté longtemps à avoir des nouvelles. Et je savais, enfin, il m'avait dit qu'il partait en Pologne, mais je ne savais pas plus. Jusqu'au jour où ils avaient des machins exprès, là. Mmh. Et ils écrivaient pas n'importe quoi. Et c'était lu par tout le monde. Enfin, par tout le monde. C'était lu par les officiels, je sais pas, avant de partir. J'ai reçu cette carte qui me donnait où il était. Voilà. Alors là, il était en Pologne, mais là, il travaillait sur les voies ferrées. Parce que quand tu arrivais, il ne te prenait pas pour te faire. Hein. Alors voilà, il a travaillé sur les voies ferrées. Tu sais, il levait les rails, enfin bon, les travaux. Enfin, c'était pas. Mais là, je ne sais encore pas comment ça est arrivé, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas. Ah ben! Grand-père, voilà, c'est ça qui l'a sauvé. Il avait un diplôme d'infirmier.
D'accord.
Il avait fait. Il était infirmier militaire. Hein. Tu sais, il avait fait l'école, je ne sais pas comment ça s'appelait. Il allait au cours du soir et il avait un diplôme d'infirmier. Donc, il s'en est servi, il a dit qu'il était infirmier. Vite, vite, on l'a pris, déjà au chantier de Genette, on l'a pris pour piquer les autres hein, qui arrivaient. Tu sais, quand on te pique quand tu arrives. Hein. Donc il a commencé, voilà, et de fil en aiguille, il a été donc gérant au foyer, et voilà. Seulement après, quand il y a eu les départs en Allemagne, bon, il est parti. Là-bas, c'est pareil. Quand il a été en Pologne, il a fait voir sa machine d'infirmier, il est rentré à l'hôpital. Il travaillait comme infirmier à l'hôpital de Poznań, je crois que ça s'appelait. Voilà. Alors là, étant à l'hôpital, il s'est mis bien avec le médecin-chef, mm-hmm. automatiquement. Et voilà. Et le médecin-chef lui a fait avoir une permission. Donc il est venu en permission. Alors quand il a été en permission, il a dit, je suis là, je ne repars plus.
Ouais.
Et voilà. C'est là qu'il a fallu un peu se planquer. Et voilà. Alors là, bon, voilà. Il ne travaillait pas, il restait besoin de travailler parce que bon, il fallait plutôt se cacher qu'en fait de se faire voir.
Voilà. Il est revenu combien de temps après alors?
Mais là, il est resté et il est reparti. Il a été obligé de repartir en Pologne parce qu'on est venu. Et lui, il sait pas, il était caché, on ne voyait pas. Mais on a dit à ma belle-mère, puisqu'on habitait dans la même maison, on a dit à ma belle-mère, si c'est pas lui, c'est votre mari. On aurait pris mon beau-père à sa place. Alors, il s'est rendu et il est parti. Il est parti en Pologne comme ça.
Et après, de nouveau, il s'est retrouvé sur les voies ferrées ou à l'hôpital?
Ah non, non, à l'hôpital. Non, après, il était bien. Quand de dire, il était bien, il était même. Il mangeait bien, parce que quand tu es à l'hôpital, tu manges bien. Hein. Tu fais manger les malades, mais quand même, tu profites de la nourriture. Non.
Voilà. Et après, il est revenu quand alors?
Après, il a lu. Je vais te dire, moi, je travaillais à l'époque. Hein. Je travaillais. Et on avait des visites médicales dans les usines, c'était comme ça. Et il y avait un docteur qui... Alors, je lui raconte ma vie, d'abord il savait. Alors, il me fait... Tu vois un peu les choses. Il m'a fait un papier. J'avais... Je vais t'expliquer. La femme de tonton... Tu n'as pas connu, toi.
Ah non.
Non. Mais elle avait le cœur malade.
Ouais.
Elle était vraiment malade du cœur, puisqu'elle a... Ma chère, elle est morte à 30... quelques années, à 32 ans. Alors, j'ai procuré à ce docteur de l'usine qui était d'accord pour qu'on ne parte pas le moins possible, il m'a fait un certificat que j'avais dit que nanana, et on a joint à ce certificat le cœur de Tati, enfin le cœur, ouais. les photos, les radios
d'accord.
du cœur de Tati Yvette. Elle portait le nom même que moi, parce que ça s'appelait Martini.
Ouais.
Elle était mariée. Donc le docteur, il s'est arrangé. Voilà. Voilà comme les choses, elles se passent. Des choses rocambolesques, hein. C'est le cas de dire. Hein. Voilà.
Et donc, grâce à toi, à ce certificat-là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait revenir grand-père?
Attends, de Pologne. Oui, moi, grâce à ce certificat, au cœur de Tati Yvette, au certificat de ce docteur, j'étais revenue, qu'on a envoyé en Allemagne, parce que ce docteur, il m'avait vraiment fait que j'étais, il avait mis que j'étais mourante, avec les photos du cœur et tout. Voilà comment mon grand-père est venu en permission.
La deuxième fois.
Seulement, il n'est pas reparti, voilà. Et après, il n'est plus reparti. Voilà.
Et là, ils ne sont plus revenus le chercher.
Non.
Ils n'ont plus menacé le beau-père.
Non.
Et là, c'était en quelle année, alors, la fois où il est revenu définitivement?
Eh bien, écoute, André est né en 45, donc ça devait être 44, comme ça.
Hein. D'accord. Et après, il est revenu et il a repris son travail chez Guillotte.
Oui. Mais pas tout de suite. Alors, comme quand même, il fallait manger, il fallait travailler... Moi, je l'ai fait rentrer chez Soulé. Puisque moi, je travaille chez Soulé. Alors là, il est rentré comme chef de magasin. On y avait donné ce titre. Et bon, il s'occupait parce qu'à Soulé, c'était quand même important. Il y avait beaucoup de monde à l'usine, mais les magasins étaient parce qu'il y avait 4 ou 5 succursales qu'il fallait livrer tous les jours. Donc, il s'occupait des magasins.
Mmh. C'était une manufacture de chaussures, ça?
Oui. À Saint-Antoine.
D'accord.
Mmh. C'est là que moi j'ai connu la femme de celui qui était chez Guillotte. Et c'est lui qui s'est trouvé perdu parce qu'il était peut-être fort pour le travail des ressorts, mais c'était un type qui n'avait pas... Hein. C'est lui qui a connu, par sa femme qui travaillait avec moi, qui a connu grand-père et qui l'a fait rentrer chez Guillotte. Voilà.
Ok. Et donc, il a eu une petite période chez Soulé et après, il est reparti
chez
Guillotte.
Oui, chez Soulé, ça a été un semblant, quoi.
Ok. Et après, il est resté tout le temps chez Guillotte.
Après, il est resté chez Guillotte.
Vous êtes allé habiter rapidement
à Septembre? Au Septembre, je suis venue... Ah ben, André, il est né à Marseille, il est né à la Viste et puis il est né à Septembre, en 46. Je suis venue en 46 à Septembre. Mais pas...
Pas à la maison qu'on a connue.
J'habitais, j'avais loué une maison. Voilà. Et après, cette personne qui louait la maison, elle n'en était pas, elle avait perdu. C'était son mari qui était propriétaire, qui avait hérité de la maison de sa mère. Mais le mari est mort et elle n'avait pas droit à la maison, la belle-fille. C'est la petite, il y avait une petite qui avait 2 ans, Roseline, tu nous as entendu parler peut-être de Roseline, toi. Tu as entendu parler de Roseline.
Oui, 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 oui. Bon.
Elle avait 2 ans, oui, tu te rappelles pas?
Si, mais le prénom, oui, ça me...
Ben oui, tu te rappelles pas d'elle, mais...
Non, non.
Tu as peut-être entendu parler de Roseline. Bon, mais donc... voilà, la mère, elle avait besoin d'argent pour aller la petite. Elle a loué la maison. Parce que la belle-mère, elle ne voulait pas, mais la belle-mère est morte. C'était la petite qui héritait. La petite, comme elle était gamine, c'est la mère qui a été tutrice, ou je ne sais pas comment dire. Quoi. Enfin, bon, donc ils m'ont loué la maison. Ça, eux, ils en avaient besoin, donc voilà. J'ai loué cette maison. Et là, après, cette Roseline, elle avait 2 ans, puis elle a eu 4 ans, puis 6 ans, puis là, puis elle s'est mariée. Et quand elle s'est mariée, elle avait la maison, sa maison où j'habitais, moi au départ, et puis il y avait tout le terrain qu'il y avait là, il y avait je ne sais pas combien de... Il y avait beaucoup de... Parce qu'elle a vendu un morceau qui est sur la route, vous voyez, je crois qu'il y avait 10 000 mètres, maintenant elle a vendu par morceau, toujours parce qu'ils étaient dans le besoin, et ils vendaient comme ils pouvaient le terrain. Et puis cette Roseline, un jour, elle a été fiancée, et le père du fiancé, il a dit, « Oh, il a dit, tu sais, tu vas me vendre un morceau, puisque tu en as vendu, hein, c'était aussi, il a acheté un morceau de terrain. » Alors, nous, on a dit, « Bon, c'est le bar, on va essayer d'acheter un morceau de terrain. » Et voilà, comme on a acheté un morceau de terrain, et qu'on a bâti.
D'accord. Et pendant tout ce temps-là, tu gardais des relations avec la belle famille du côté de grand-père. Le grand-père Périphanos, qui lui habitait toujours à la Viste avec Mémé de la Viste.
Ah, on a toujours été toujours en rapport, bien voilà. Sûr. Jamais rien, toujours bien.
Ouais, ouais, non, mais.
Oui, parce que ça, c'est encore autre chose de Périphanos. Comment je peux dire?
Ouais, l'officialisation a été tardive d'Apostolo, quoi. Il y a eu des tergiversations.
Oui, c'est encore des ampoules de papier, pas plus, hein. En fait, quand le grand-père, le père de mon beau-père,
ouais.
Père de mon beau-père, quand il est venu en France, quand il est arrivé en France, tu sais, un grec qui arrive en France et qui ne sait pas parler, qui ne sait rien, il y avait quelque chose dans un autre grec et qui l'attendait, mais dans mes papiers, ils se sont trompés. En effet, ils se sont trompés. Ils ont mis le prénom, le nom, ils l'ont mis en prénom, et le prénom, ils l'ont mis en nom. Donc, grand-père, il s'est appelé longtemps Carambos.
Ouais.
Qui était le prénom, en fait.
Ben oui.
Carambos, c'est Charles. C'était le prénom du grand-père. Il s'appelait Charles.
Le prénom du père de grand-père.
Oui.
Voilà.
Alors, ils se sont appelés Carambos pendant un certain temps. Et puis après, je sais pas comment ça est venu que... Mais tu vois... Et la grand-mère, donc la mère de grand-père, elle s'appelait...
Vedovini,
ouais. C'est son nom.
Ouais.
Mais sur les papiers, moi je lisais ce papier, il y a écrit Vedovini.
Avec un L.
Avec deux L.
Avec deux L.
Alors, moi j'ai essayé de faire corriger. Alors je suis déjà arrivée à faire corriger Carambos. Après il y avait encore... Et chaque fois tu payes. Alors j'ai dit, merde, il va voir que je t'appelle Vedovini ou pas Vedovini.
Et le, donc, autant l'arrière-grand-père, donc qui est arrivé, lui, à Marseille, je crois que c'était pour partir aux États-Unis.
Oui, mais partir en Amérique.
Mais il est resté parce qu'il a rencontré sa chérie.
Voilà.
Lui, il est arrivé tout seul, voilà. Parce qu'il n'avait pas de famille sur place. Mais non. elle avait de la famille.
Il y avait quelqu'un qui devait l'attendre, qui s'occupait de lui, disons, un grec aussi, certainement, mais et qui devait l'embarquer pour l'Amérique. Mais bon, il n'y avait pas de départ pour l'Amérique tous les jours.
Ouais, parce que c'était en bateau, je suppose.
Donc, il est allé travailler en raffinerie. Et parce que quand même, il ne pouvait pas rester sans travailler.
Raffinerie de sucre.
De sucre, à Saint-Louis. Mmh. Et donc, à la Capucelle. Et là, il a connu, donc, ma belle-mère, quoi.
Voilà. Mais qui, elle, était...
Alors, il n'est plus parti.
Ouais, bah ouais. Mais elle était là parce que sa famille était déjà là.
Elle habitait là, elle habitait là, à Boulevard des Italiens, ça s'appelle en face de la raffinerie. C'est...
Mais sa famille était déjà là, alors que lui, oui, il est arrivé tout seul.
Il a, lui, il avait pas... était grec aussi.
Non,
non, non.
Italienne.
Il était italien, oui, il était italien, il est arrivé d'Italie, je ne sais pas quand, mais attends.
Elle, ses parents, ils habitaient à Marseille.
Oui, oui. Boulevard des Italiens.
Ouais, donc ils étaient chez eux, quoi. D'accord. Et après, donc, une fois le nom Apostolo officialisé, c'était quand, ça?
Écoute, ça, ton père, il a tous les papiers, tu demanderas, tu verras tous les papiers, j'ai tout donné. Je fais tous les duplicatas, j'ai donné à chacun, pour qu'il sache où ils arrivent. Mais en fait, Apostolo, c'est pas le nom, quoi.
Ouais, c'est le prénom un peu traficoté, quoi. Ouais.
En réalité, le nom, c'est Apostolé.
Ouais, avec un E.
Voilà, avec un E. Ça se prononçait Apostolé. Seulement, à force de faire des erreurs, et on a dû dire un jour, ben oui, tant pis, hein, pour plus payer. Mais Apostolo ou pas Apostolo, non, faut.
Ouais.
Ma belle-mère, peut-être, comme elle était italienne, un peu, ça lui plaisait mieux, parce que ça s'appelait Apostolo, ça s'appelait Apostolé.
Et eux, ils sont toujours restés à la vista après.
Oui. Attends, comment c'est ça? Ils ont habité la Capucelle, là, voir des Italiens, un peu. Et puis, ils ont acheté un morceau. Je ne sais pas si c'est eux ou si c'est la grand-mère qui avait acheté. Je crois que c'est sa grand-mère. Qui avait acheté un morceau de terrain, là, où ils habitent. Je ne sais pas si tu es déjà allé, là, toi.
Non.
À la vista, tu n'es jamais allé, toi, non. Et non.
Non.
Alors, ils ont acheté un morceau, je ne sais pas, puis ils ont fait bâtir. Et... C'est-à-dire, c'est le son frère, le père de Paul. Paul et Périphanos. Tu en as entendu parler?
Oui, oui.
Voilà. Mais son père, donc, de Paul. Je crois que c'est lui... Il est venu, il avait que 16 ou 17 ans, lui, quand il est arrivé là. Et il a acheté, vite, c'est lui qui a acheté, ou les parents de sa femme, en fait, je sais plus, qui ont acheté là un morceau à la vista. Là. Et après, donc, grand-père a acheté, il a commencé à bâtir, il s'est bâti la maison. Tout seul, enfin tout seul. Dans les bonnets maçons, selon les travaux qu'il avait fait les bonnets maçons, mais c'est lui qui a monté la maison. Même grand-père, il disait qu'il avait fait beaucoup de mortier. Il disait, j'ai fait beaucoup de mortier, j'ai monté beaucoup de sauts, il disait.
Et votre beau-père, il parlait bien français quand même
ou... avec un accent quand même. Il parlait bien français, mais bon... On sentait que c'était pas le français, quoi.
Elle avait la mère, elle...
Non, mais ma mère, elle parlait...
Elle avait plutôt un accent marseillais, ou...
Oui, ma foi, elle avait toujours vécu là, mon fils. Ouais.
Elle parlait pas toi, elle, pas du tout?
Ah non, non, non. Okay. Ils étaient pas du tout roins, ça, pas du tout.
Et Paul Périphanos, lui, c'était le frère du père de grand-père.
C'est le fils du frère de grand-père, Paul. Paul, c'est le fils du frère de grand-père.
Le cousin de grand-père.
C'est le cousin germain de mon grand-père à moi, de Léon.
Voilà.
D'accord.
Voilà.
Mais qui est arrivé en France après coup, donc. Paul Périphanos.
Non, lui, il est né en France, Paul. C'est son père qui est arrivé. Oui. Son père est arrivé... Son père, le frère ouais. de mon beau-père.
Ouais.
C'est lui qui est arrivé.
Après coup.
Après coup, mais quand même, il était relativement jeune encore.
D'accord. Donc en fait, en France, finalement, il y avait deux frères. Oui. Mais qui n'avaient pas le même nom.
Et non.
Il y en a un qui a eu de chance au niveau de l'administration, il a connu tout de suite les lois.
Un qui est arrivé Périphanos, puis qui s'est appelé momentanément Caralambos et finalement Apostolos.
Parce que Périphanos, c'est le vrai nom aussi.
Non, c'était le nom initial.
C'est son nom.
Ouais.
Mais c'était le vrai nom. Périphanos.
C'est Apostolé qui était le prénom.
Périphanos.
Caralambos, c'était Charles.
En grec.
En grec. Donc mon père il s'est appelé Apostolé Caralambos. Ouais. On y a mis le prénom en nom. Et Périphanos, ça a dû être certainement. Attends, comme non, lui il s'est appelé.
Ça a été éliminé, genre, quoi. Et l'autre il est arrivé avec son nom Périphanos, mais il a gardé Périphanos. Peut-être, du coup, les deux ils n'avaient pas le même nom, quoi.
Et non.
Et après, donc le frère de l'arrière-grand-père, donc il est resté en France. Et il a eu un fils, Paul. Qu'un seul fils il a eu?
Non, deux. Il y a deux fils et deux filles.
D'accord.
Il y a Paul, Michel, Jeannot dit Michel, Michel dit Jeannot, je n'ai jamais su lequel. On l'appelle Jeannot à la visite, mais il paraît que c'est Michel. En même temps, on l'appelle Michel. Un peu, bon, ça n'a pas d'importance. Alors, il y avait Paul, Michel, et puis il y a deux filles. Alors, je ne te dirai pas le nom, je ne m'en rappelle pas.
Donc ça, c'est des gens de ta génération, en fait.
Ben oui.
Et qui sont toujours vivants, qui sont en France.
Attends,
qui...
les parents de... Donc, le frère de grand-père.
Ouais. Comment, c'était quoi son prénom?
Georges.
D'accord. Georges Périphanos.
Voilà, Georges Périphanos. Alors, Georges, il est mort, mais il n'y a pas tellement longtemps. Puisque même j'avais téléphoné à Paul, je l'avais, enfin, pas engueulé, mais j'avais dit, tu aurais pu nous le faire dire quand même, on ne pas fait dire. Donc personne n'y est allé, on ne savait pas. Enfin, bon, ça, c'est une parenthèse. Et je crois que sa mère est morte maintenant aussi. Mais il n'y a pas longtemps. Hein.
Des frères et sœurs, Léon, il y avait des frères et sœurs.
Léon? Léon, il est compris, il était l'aîné de sept.
Sept. Et vous les voyez toujours, enfin, il y en a toujours.
Ah oui.
Vous avez toujours eu de bons.
Ben, c'est-à-dire, alors, il y avait Léon, c'était l'aîné. Il y a Florette. Celle-là, tu te rappelles un peu de Florette?
Ouais, je les connais tous, moi.
Ah, Florette, tu la connais.
Ouais.
Après, il y a Marius, qui est à Paris.
Non, lui, c'est le seul que je connais pas.
Voilà.
Je connais de nom, j'ai lu des articles.
Voilà, lui s'est fait un peu remarquer.
Sur Internet, d'ailleurs. Tu peux retrouver.
Donc, Marius. Après, il y avait Marie-Louise, tu la connais aussi. Elle habite à Nantes, c'est là. Oh.
Marie-Louise.
La mère de Charles.
La mère de Charles.
Oh,
celui-là, tu le connais, on le voit à la télé.
Ouais, bien sûr, ouais.
Mais sa mère, Marie-Louise. Après, il y avait Pierrot,
ouais,
qui s'est suicidé.
Oui.
Ça, tu te rappelles aussi.
Oui.
Après, il y avait Lily, qui est à Paris aussi. Enfin, à Paris, dans la banlieue, quoi. Elle n'est pas à Paris même. Donc, ça faisait six. Grand-père, Florette, Marius.
Marie-Louise,
Pierrot,
Lily.
Et Lily.
Il en manque un.
Et bien René qui est arrivé.
René.
Qui est arrivé bien, bien longtemps après. Voilà. Puisque René, il est en 42.
Ouais.
Puisque nous sommes pareils marraines avec grand-père.
Ouais.
On n'était pas mariés, mais sur le point de se marier, quoi. Donc on a été pareils marraines de René.
Par contre, vos enfants, ils ne les voient pas trop, leurs cousins, si. Ils s'étaient revus aux cousinades, mais...
Ben, on essaye, nous, on est beaucoup famille. Alors, on essaye toujours de... Ça se refera, cette histoire de cousinade, comme ça, ben...
Mais sinon, avant ça, ils ne se voyaient plus trop,
Eh ben, tant qu'il y a eu le grand-parent, on se voyait. Parce que ma belle-mère, elle nous rassemblait. Voilà, on se voyait.
Puis ouais, moi je me rappelle, on faisait des Noëls où il y avait tous les grands-oncles et tantes, hein, et tous les enfants, les petits-enfants.
Ben oui, on vous mettait dans la pièce à côté.
Enfin, on la fait souvent, je ne sais plus, d'ailleurs, dans des établissements divers et variés. On la fait souvent.
Après, oui, après.
On la fait chez René aussi, souvent, à Toulon.
Ben oui, après, on est allé avec René. Ça devient difficile quand on est à mesure au nombre. C'est vrai que ma belle-mère, elle le faisait volontiers, mais plus cher après, elle ne pouvait plus non plus. Elle avait eu un accident de voiture. Elle était à l'arrêt du tramway, ou du bus, je ne sais plus si c'est déjà du bus, à la vista. Et elle a été fauchée par un camion américain. Mais il y avait l'armée américaine qui circulait là. Et elle a été handicapée, puisqu'elle a toujours un bras qu'elle ne peut pas se servir. Qu'elle ne pouvait pas se servir. Enfin, bon. Quand on est nombreux dans les familles, comme je ne sais pas qui je le disais, il y a beaucoup de joie, mais il y a beaucoup de peine. C'est normal. Hein. Au plus tu es nombreux, au plus tu as de joie, mais au plus tu as de peine.
Hein. Ouais. Vous voulez dire d'embrouille ou...
Non, pas d'embrouille. Non, non. De peine, de chagrin, ouais, de bon. Peine. Non, d'embrouille, il n'y en a jamais trop eu. Moi, de mon côté, il n'y en a pas. Et du côté de grand-père, non plus, ma foi. Ils sont plus ou moins. C'est parce que d'abord, chacun s'est éloigné un peu. Hein. Nous, on est restés peut-être plus ensemble dans le coin, quoi. C'est vrai que ceux qui sont loin, ben. Encore que. Marius, il est venu pour l'enterrement de grand-père. Tu étais pour l'enterrement de grand-père?
Ah oui, évidemment.
Et puis il était tonton Marius, il est venu.
J'ai dû le voir, mais bon.
Oui.
C'était pas des circonstances.
Non, non, il aurait fallu pouvoir, mais c'est jamais, c'est pas le moment de faire les réunions.
Et pendant tout ce temps-là, tes frères et sœurs, ils faisaient quoi?
Les miens?
Ouais.
Pendant ce temps-là, de quoi?
Temps, hein.
Eh bien, pendant tout ce temps.
Toi, tu t'es marié et eux, ils oui, se sont mariés.
Oui,
puisque,
alors attends.
Parce que tante André, il a perdu sa femme.
Oui, Tati Louisette, elle s'est mariée en 33. À 19 ans, elle s'est mariée, Tati Louisette.
Avec monsieur Montegrandi.
Avec Montegrandi Fernand. Voilà. Donc, elle, pas de problème. Son mari travaillait, elle ne travaillait pas. Elle est allée travailler quand elle a perdu son mari. Elle n'avait pas l'âge de la retraite, encore avec 47 ans, quand ton père est mort. De suite, elle a dit, moi, je vais travailler, parce que non, à 47 ans, tu ne crois rien, tu touches rien. Elle a dit, puisque je ne sais rien faire, puisque je vais faire des ménages. Et t'aider, elle a fait des ménages comme, jusqu'à 70 ans, 12 ans, elle a fait des ménages. Dans le fond, ça y plaît de faire le ménage. Non, c'est vrai. Écoute, à la Ciotat, nous, notre souci à la Ciotat, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a mangé? Le pain, le poisson, la viande. Elle, le javel, la javel et le myrrhe. Voilà. La javel et le myrrhe. Quand elle te disait, il me faut du myrrhe, il me faut de la javel. Nous, on disait, mon Dieu, combien de pain aujourd'hui, combien de choses. Elle, c'était le bien.
Il faut de tout faire.
Voilà.
Gérer.
Voilà.
Ça se complète comme ça.
C'est pour ça que le jour où elle a été veuve, qu'elle était jeune encore, qu'elle n'avait pas de retraite, elle a dit, oh ben moi je vais faire des ménages. Elle a dit, je ne sais rien faire, je vais faire des ménages. Et ma foi, là, je dis, jusqu'à 70, plus de 70 ans, elle a fait des ménages. Alors tiens, ça s'est tombé que la belle-mère de Tati Paul, elle avait besoin de chercher une femme de ménage. Mon Dieu, elle a dit, t'as vu Louisette, si vous voulez venir. Elle a commencé comme ça, et après, tu sais, ouais, de bouche à oreille, t'aider. Elle faisait toute la journée des ménages, du matin au soir, du soir au matin. Voilà la vie.
Et ton André est instituteur, lui.
Et lui, c'est l'instituteur.
Il a fait ça toute sa vie.
Oui. Eh bien oui, parce que lui, il restait à la Ciotat avec ma grand-mère, avec mes grands-parents. Donc, il a fait l'écho complémentaire à la Ciotat. Et écho complémentaire, je te dis, quand tu as fini l'écho complémentaire, ou tu présentais le concours des postes, ou tu rentres à l'école normale. Lui, il rentre à l'école normale. Et voilà.
Donc, tes grands-parents, ils sont restés à la campagne, à la Ciotat, tout
oui,
le temps.
Oui.
jusqu'à la fin de leur jour.
Ben, à la fin, ils sont venus un peu à la viste, puisque ma mère était à la viste à ce moment-là. Ben, nous étions à la viste en fait. Alors après, comme j'étais un peu trop vieux, ils sont venus un peu à la viste. Ils repartaient un peu l'été là-bas, là, tout ça. Et puis après, ma grand-mère est morte quand même, c'est pas vieille, elle est morte à la viste, ma grand-mère. Elle a 71 ans. Et mon grand-père, il est mort à 85 ans. Alors ça, mon grand-père, c'était... Comment on pourrait te dire, je sais pas, le mot ne me vient pas. C'était le roi. C'est pas le roi que je veux dire, mais il était... Ma grand-mère, elle le...
Le vénérait.
Elle le vénérait, voilà. C'était le... À table, tu avais beau être 15 à table, mon grand-père était servi le premier. Même s'il y avait des invités de marque, je veux te dire. Mon grand-père, le premier et le meilleur morceau. C'était comme ça. Et lui, il se laissait faire, il a toujours... C'était bien quand c'était la bonne.
Il n'allait pas râler non plus. Non.
Voilà, on a vécu, enfin, moi j'ai vécu beaucoup dans cette ambiance de ma grand-mère, que ma grand-mère, c'était ma mère, c'était tout, puisque ma mère, elle était à Marseille, nous on était avec elle à Ciotat. Mais mon grand-père, c'était le roi, disons, quoi, voilà.
Et après eux, à la Ciotat, plus personne n'y a habité.
Non.
Donc c'est resté la maison de vacances.
Complètement.
C'est la maison de vacances.